Chapitre 27. Le soleil de la chance se levait pour Martin. Le lendemain de la visite de Ruth, il reçut un chèque de $3 d'un hebdomadaire satirique de New York pour 3 de ses triolets. 2 jours plus tard, un journal de Chicago accepta son chasseur de trésors en lui promettant $10 après publication. Le prix était bas, mais c'était le premier article qu'il eût écrit, son tout premier essai littéraire. Pour couronner le tout, son récit d'aventure pour la jeunesse, son deuxième essai, fut accepté avant la fin de la semaine par un mensuel appelé Youth and Age. C'était un feuilleton de 21 000 mots et il ne lui en offrait que $16 après publication, c'est-à-dire quelque chose comme 75 cents les 1000 mots à peine, mais ce n'était jamais que son second texte et il était très conscient de ses maladresses de style. Toutefois, malgré tous leurs défauts, ses premières tentatives étaient loin d'être médiocres. Elles avaient la gaucherie du néophyte qui veut trop en faire, qui croit attraper des papillons avec des battoirs et enfonce le clou avec une masse d'armes. Martin s'estima donc heureux de vendre ses textes pour une bouchée de pain. Il y avait longtemps qu'il ne se faisait plus d'illusions sur leur valeur. Il mettait ses vrais espoirs dans ses derniers travaux. Il ne s'était pas donné tout ce mal pour être un simple feuilletoniste, il voulait être un artiste des lettres, sans renier pour autant la puissance de son inspiration première, ni son amour du réel. Il restait avant tout un auteur réaliste, mais ne dédaignait pas les artifices stylistiques. Il cherchait à élaborer une forme de réalisme passionné, parcouru par un grand souffle de vie. Il voulait peindre la vie telle qu'elle était, avec toute l'âme et toute la spiritualité qui l'habitait. Au fil de ses lectures, il avait découvert 2 écoles romanesques. L'une traitait l'homme comme un dieu et ignorait ses origines terrestres. L'autre traitait l'homme comme une motte de terre et ignorait ses rêves, ses aspirations au divin. Selon Martin, ces 2 écoles se trompaient et péchaient par excès dans un sens ou dans l'autre. Il fallait trouver un moyen terme. La vérité exigeait un compromis entre l'ange et la bête. Dans « Aventure », la nouvelle qui avait plu à Ruth, il pensait avoir atteint son idéal de vérité romanesque. Et dans un article intitulé « Dieu et la glèbe », il avait exprimé ses opinions sur le sujet en général. Mais « Aventure » et ses meilleures œuvres circulaient encore d'un rédacteur à l'autre. Ses premiers textes comptaient pour rien à ses yeux, à part l'argent qu'il lui rapportait, et il ne considérait pas les 2 histoires d'épouvante qu'il avait vendues comme de la haute littérature. Elles avaient été pour lui un moyen d'explorer l'univers du fantastique et il s'y était employé de son mieux en s'appliquant à pimenter ses récits de notation réaliste pour leur donner de la force, mais dans son esprit, ce n'était qu'un exercice ou, au mieux, un habile divertissement. La haute littérature avait besoin d'un autre terreau. Elles étaient artistement faites, mais pour lui, l'art ne valait rien quand il était coupé de l'humain. Son exercice avait consisté à couvrir l'artifice d'un masque d'apparence humaine et il s'était frotté une 12 de fois au genre fantastique avant de se lancer dans les sommets qu'étaient aventure, joie, le pot et le vin de la vie. Les $3 qu'il reçut pour les triolets lui permirent de vivoter en attendant l'argent du White Mouse. Il encaissa le premier chèque chez le soupçonneux épicier portugais à qui il remit $1 d'acompte et partagea les $2 restants entre le boulanger et le fruitier. Martin n'était pas encore assez riche pour s'offrir de la viande et il était au régime maigre quand le chèque du White Mouse arriva. Il hésita sur la meilleure façon de l'encaisser. N'étant jamais entré dans une banque de sa vie, il était pris d'un désir naïf et puéril de se rendre dans un des grands établissements d'Auckland pour y endosser royalement son chèque de $40. D'un autre côté, le bon sens lui suggérait de l'encaisser chez l'épicier afin de l'impressionner et d'en profiter par la suite pour rallonger son crédit. Il se résigna à contre-cœur à cette seconde solution, paya l'épicier rubis sur l'ongle et reçut en échange une pleine poignée de pièces de monnaie. Il paya aussi ses autres créanciers, récupéra son costume et sa bicyclette, régla sa traite sur la machine à écrire et le loyer en retard qu'il devait à Maria en y ajoutant 1 mois d'avance. Tout cela lui laissait $3 en poche pour ses besoins immédiats. Cette petite somme lui semblait une fortune. Dès qu'il eut récupéré ses habits, il se rendit chez Ruth, sans pouvoir résister au plaisir de faire teinter les pièces qui alourdissaient sa poche tout au long du chemin. De même qu'un ancien affamé et rassasié ne peut détacher les yeux de la nourriture qui reste sur la table, de même Martin ne pouvait s'empêcher de palper le précieux métal dont il avait été si longtemps privé. Non qu'il fût pingre, L'argent représentait pour lui autre chose que des dollars et des cents, c'était la matérialisation du succès. Et les aigles frappés sur les pièces étaient autant de victoires ailées. Il commençait à se dire que le monde était bien beau. Pendant des semaines, il n'en avait vu que le côté sombre. À présent, libéré de ses dettes, riche de 3 dollars qui ferraillaient dans sa poche et confiant dans son succès, il voyait le soleil se lever sur un jour plein de promesses, et même la soudaine averse qui trempait les piétons pris au dépourvu lui semblait une bénédiction du ciel. Durant ses jeûnes forcés, ses pensées étaient souvent allées vers les milliers de gens qui mouraient de faim de par le monde. Maintenant qu'il avait l'estomac plein, le drame de la famine n'accaparait plus son esprit. Puisqu'il était amoureux, c'était au milieu d'amoureux qu'il songeait à présent. Des sujets de poèmes d'amour se bousculaient dans sa tête, et, emporté par son inspiration, il oublia de descendre du tram et dut revenir à pied vers sa station. Il y avait du monde chez les Morse. 2 cousines de Ruth étaient venues de San Rafael pour la voir, et Madame Morse avait commencé à lancer des invitations pour mettre son plan à exécution et entourer sa fille de jeunes gens. La campagne, qui avait commencé pendant l'absence momentanée de Martin, battait son plein. Elle veillait à inviter surtout des hommes avec de belles situations. Ainsi, outre les cousines Dorothy et Florence, Martin rencontra 2 professeurs d'université, l'un de latin, l'autre d'anglais. Un jeune officier de retour des Philippines, qui était allé à l'école avec Ruth. Un jeune homme nommé Melville, secrétaire particulier de Joseph Perkins, directeur de la San Francisco Trust Company. Et enfin, Charles Hapgood, un banquier de 35 ans, diplômé de l'université de Stanford, membre du Nile Club, de l'Unity Club et orateur du Parti républicain dans les campagnes électorales. Bref, un jeune homme plein d'avenir. Parmi les femmes, il y avait une artiste qui peignait des portraits, une musicienne professionnelle et intellectuelle titulaire d'un doctorat en sociologie, qui s'était rendue célèbre localement par ses réalisations sociales dans les taudis de San Francisco. Mais ces dames ne jouaient qu'un rôle secondaire dans le plan de Madame Morse. Elles n'étaient tout au plus que des faire-valoir, des prétextes pour attirer les hommes à la maison. « Ne vous laissez pas emporter quand vous parlez, » dit Ruth à Martin pour lui faire la leçon avant que commençât le supplice des présentations. Il se tint un peu raide au début, oppressé par le sentiment de sa gaucherie et, comme toujours, paralysé par la crainte d'endommager le mobilier d'un coup d'épaule intempestif. Tous ses visiteurs l'intimidaient. Il n'avait jamais été en présence d'individus aussi distingués. Hapgood, le banquier, le fascinait, et il résolut d'engager la conversation avec lui à la première occasion. Car l'ego de Martin pointait sous sa timidité, et il éprouvait le besoin de se mesurer avec ses hommes et ses femmes pour découvrir ce que les livres et la vie leur avaient enseigné de plus qu'à lui. Ruth, qui le surveillait souvent du coin de l'œil pour voir comment il se comportait, fut surprise et ravie par l'aisance avec laquelle il s'entretenait avec ses cousines. Il ne s'emportait pas, et la position assise le libérait du souci de ses épaules. Ruth, qui savait ses cousines intelligentes et brillantes, n'en crut pas ses oreilles lorsque, en allant se coucher à la fin de la soirée, elle lui fit l'éloge de Martin. Lui, de son côté, qui avait toujours été un amuseur, un bout en train dans les bals populaires et les pique-niques du dimanche, avait su s'adapter avec beaucoup de facilité aux plaisanteries de salon, et il s'illustra par ses traits d'esprit. Il faut dire que tout au long de la soirée, la conscience de ses récents succès l'avait accompagné, lui tapotant l'épaule, en lui chuchotant qu'il était à la hauteur, qu'il pouvait se permettre de rire et de faire rire sans craindre la moquerie. Plus tard, l'anxiété de Ruth trouva une justification. Martin et le professeur Caldwell s'étaient isolés dans un coin de la pièce, et bien que Martin s'appliquât à ne pas agiter les bras en conversant, l'œil critique de Ruth remarqua que son visage s'animait un peu trop, qu'il parlait trop vite, s'exprimait avec trop de fougue, s'échauffait, s'empourprait. Son relâchement contrastait terriblement avec la froide contenance du jeune professeur d'anglais qui devisait avec lui. Mais Martin se souciait peu des apparences. Il avait vite remarqué le bel esprit de son interlocuteur et appréciait fort sa maîtrise du savoir. En outre, le professeur Caldwell ne correspondait pas à la conception que Martin se faisait du professeur d'anglais moyen. Martin voulait l'entendre parler de son métier et, après quelques réticences, le jeune universitaire y consentit. Car Martin ne comprenait pas pourquoi il était mal vu de parler de son métier en société. « C'est absurde et hypocrite !» avait-il dit à Ruth quelques semaines auparavant. « Pour quelle raison les hommes et les femmes se réunissent-ils, sinon pour échanger le meilleur d'eux-mêmes? Et le meilleur d'eux-mêmes, c'est leur principal centre d'intérêt, ce qui les fait vivre, la spécialité qui occupe leur jour et leur nuit et même leurs rêves. Imaginez M. Butler énonçant ses vues sur Paul Verlaine, la dramaturgie allemande ou les romans de D'Annunzio pour satisfaire aux convenances. Ce serait d'un ennui mortel. Moi, par exemple, si j'étais obligé d'écouter M. Butler, je préférerais 100 fois l'entendre parler de problèmes juridiques. C'est ce qu'il connaît le mieux, et la vie est si courte que je veux découvrir le meilleur de ce que les gens ont en eux. Mais, avait objecté Root, il y a des sujets généraux qui intéressent tout le monde. C'est là que vous vous trompez. Dès qu'ils sont en société, et quelle que soit leur tendance ou leur chapelle, les gens deviennent des singes. Or, qui singent-ils? Les oisifs, les riches, qui par définition ignorent tout des problèmes de la vie active. Pour eux, une conversation portant sur ces problèmes est nécessairement fastidieuse. Alors ils décrètent qu'il est malséant de parler boutique et déterminent, selon leurs propres critères, les sujets qu'on peut aborder, à savoir les derniers opéras, les derniers romans, les cartes, le billard, les cocktails, les automobiles, la chasse au gros gibier, le yachting et ainsi de suite. C'est-à-dire les seuls sujets qu'ils connaissent. En fait, pour eux, cela revient à parler boutique, de leur boutique. Et le plus drôle, c'est que les gens intelligents ou prétendus tels les laissent faire. Eh bien, pas moi. Je veux que les gens me parlent de ce qui leur tient à cœur, même si ça vous paraît vulgaire. Et Ruth n'avait pas compris. Elle avait pris cette nouvelle attaque contre les valeurs établies pour de l'entêtement gratuit. Martin incitait donc le professeur Caldwell à exprimer librement ses idées, et son insistance s'avérait payante. Passant à côté d'eux, Ruth l'entendit demander « Vous ne professez sûrement pas de telles hérésies à l'université de Californie ?» Le professeur haussa les épaules. « L'honnête contribuable est le politicien, vous savez ce que c'est. Sacramento nous donne nos accréditations et par conséquent nous courbons les chines devant Sacramento, devant le conseil des régents, devant la presse du parti ou la presse des deux partis d'ailleurs. J'imagine. Mais vous-même, reprit Martin, vous devez être comme un poisson hors de l'eau. Il y en a peu comme moi, je le crains, dans le bourbier universitaire. Parfois je me dis que je n'y suis pas à ma place, que je serais bien plus à l'aise à Paris, sous les ponts, ou dans une grotte d'ermite à mener la vie de bohème, à boire du Bordeaux dans les petits restaurants du quartier latin, en refaisant le monde et en clamant à la ronde des idées radicales. Oui, au fond, je crois que je suis un radical. Mais voilà, je suis trop timide, je manque de confiance en moi. Que voulez-vous? Je me sens très humble quand je prends conscience de mes limites, qui m'empêchent d'appréhender les grands problèmes de la vie dans toutes leurs dimensions humaines. En l'écoutant parler, Martin avait sur les lèvres la chanson de l'Alysée. Je suis plus fort à midi qu'à la brune, mais au clair de la lune, je fais encore vibrer la grande une. Il faillit en fredonner les paroles. Le professeur lui faisait penser à un vent frais, constant et fort comme les Alysées du Nord-Est. Il était d'humeur égale, inspirait confiance et dégageait en même temps un certain mystère. Martin avait le sentiment qu'il ne disait pas le fond de sa pensée, comme les Alysées justement, qui semblent ne jamais donner toute la mesure de leur souffle pour garder des tempêtes en réserve. Le pouvoir visionnaire de Martin était de nouveau à l'œuvre. Son cerveau emmagasinait des faits et des rêves, pareil à un entrepôt toujours ouvert et toujours impeccablement rangé pour l'inspection. Tout ce qui se passait dans l'instant présent était immédiatement associé à son double ou à son contraire sous forme de vision. C'était chez lui un automatisme. De même que le visage de Ruth, en proie à une jalousie momentanée, avait fait surgir devant ses yeux une tempête oubliée au clair de lune, de même que le professeur Caldwell lui avait évoqué les Alysées du Nord-Est soulevant des moutons blancs sur la mer violette, de même, par intermittence, de nouvelles images jaillissaient de ses souvenirs et défilaient sur l'écran de sa conscience. Ces images provenaient toujours du passé. Tantôt c'était des choses vécues, tantôt des livres lus la veille ou la semaine précédente, formant un incessant cortège d'apparitions qui peuplait continuellement son esprit, dans son sommeil comme dans ses heures d'éveil.